Que faire quand on ne peut rien faire? Une question que je pense que les chrétiens en général n'aiment pas se poser. J'ai souvent remarqué au long de mes années de ministère que quelquefois les chrétiens chérissent ce malentendu que quand on devient croyant, quand on est chrétien, qu'on aime le Seigneur, c'est le genre de question qu'on ne va pas se poser. Et même si que c'est quelquefois plus dans notre subconscient, et il y a des chrétiens qui pensent que la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, c'est que c'est les non-croyants qui ont les vrais problèmes. Et nous, maintenant qu'on aime le Seigneur, eh bien tout ça, on ne connaît plus. Et puis, bien sûr, le jour où on se trouve dans des situations qui justement ressemblent à des impasses, eh bien, on est déboussolé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, souvent, eh bien, on fait la même chose que les non-croyants, on pique des déprimes. Hein. Que faire quand on n'a rien à faire? Eh bien, souvent, on se sent déboussolé. Et justement, eh bien, on se dit, ben, il n'y a rien à faire, sinon, hein, comme le dit la parole de Dieu, espère en l'Éternel, il te délivrera. Une petite prière fortuite. Hein. On dit, c'est déjà pas mal. Eh bien, oui. Mais souvent, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et bien, c'est parce que je crois qu'il y a plus à dire sur le sujet que je ne vais pas me contenter simplement de cela. Déjà, il faut accepter le fait que, comme le disait le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, qu'il y a eh bien ces situations dans nos vies où l'on se dit il n'y a point de délivrance dans ce combat. Hein? Ça c'est la version biblique du faites vos jeux, rien ne va plus. Il n'y a point de délivrance en ce combat. Et c'est déjà l'honnêteté. J'allais dire l'honnêteté intellectuelle de reconnaître eh bien qu'il y a cette telle situation et tout chrétien fidèle à Dieu qu'on peut être fidèle qui aime Dieu même les pasteurs et les serviteurs de Dieu eh bien peuvent se retrouver dans telle situation eh bien où on se dit eh bien il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de solution. Et alors que faire quand on ne peut rien faire? Que faire quand les circonstances de la vie nous conduisent dans une telle impasse? Et s'il est vrai que la prière à l'Éternel est toujours le bon réflexe, hein, s'il est vrai qu'il y a tout lieu d'espérer en l'Éternel, il nous faut comprendre que les solutions que Dieu utilise sont aussi différentes que les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Donc, s'il y a une chose que vous ne pouvez pas attendre de moi ce matin, je vous préviens tout de suite, c'est que je vous distribue des recettes. Parce que la vie chrétienne, ou la vie tout court d'ailleurs, ne marche pas à coup de recettes. Et si David avait raison de dire que Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, psaume 68, verset 21, je crois que notre réflexe, et là nous sommes tous humains, parce que aussi chrétiens que nous puissions être, nous restons humains. Ne l'oublions pas. Souvent, le type de prière que nous prions, déjà, en dit long aussi sur l'angoisse qui nous anime et que nous ne voulons pas nous avouer. Et nous disons, comme le psaume 70, verset 2, Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. L'Éternel, Éternel, hâte-toi de me secourir. En d'autres mots, Seigneur, c'est maintenant que je veux que tu fasses le nécessaire. J'ai besoin d'une solution aujourd'hui, maintenant, ce matin. De préférence hier. Mais cette angoisse, c'est-à-dire que cette impatience, et puis aussi ce refus quelquefois, tout simplement, d'accepter la réalité de l'épreuve et de la situation qui pose plus de questions qu'elle n'offre de réponses. Je crois que c'est ça un petit peu le dilemme, l'angoisse avec lequel nous devons faire face. Ce matin, j'aimerais vous emmener dans cette méditation pour le temps que nous avons à considérer que, eh bien, quand nous sommes dans de telles situations, mis à part le fait d'être honnête avec nous-mêmes et le fait d'avoir effectivement ce bon réflexe de prier, je crois que ce qu'il est aussi important d'apprendre, et c'est la leçon que j'aimerais vous laisser, c'est que nous avons besoin d'apprendre à exercer un certain discernement. Souvent, en tant que chrétiens, nous manquons de discernement vis-à-vis des circonstances qui nous affligent. J'aimerais ce matin que Le Seigneur nous délivre, vous délivre de certains réflexes qui semblent chrétiens mais qui ne le sont pas. J'ai souvent vu des chrétiens qui, de la manière dont ils prient, se résignent déjà avant même que la prière ne soit finie. Et l'attitude qu'ils adoptent est plutôt du style « Inch'Allah », hein, ce qui est plutôt du style, enfin, ce qui est une autre religion, en fait, pour le dire quand même, où le fatalisme règne en maître, « advienne ce qui pourra », ce serait peut-être la traduction en français courant, mais ça, ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, ce n'est pas « oh, mais de toute façon, c'est Dieu », qui dispose, c'est tout entre les mains de Dieu. Donc finalement, moi, je laisse tout, comme sinon au hasard des choses, mais en tout cas un petit peu acceptant que ce sont les circonstances qui deviennent pour moi volonté de Dieu, plan de Dieu pour ma vie. Là encore, c'est tout un autre sujet, il faudra me réinviter, cher frère, pour cela, parce que ça, encore une fois, toute la question de la volonté de Dieu, c'est encore un de ces sujets bateaux. Qui mène les chrétiens en vadrouille dans des expéditions des plus saugrenues, alors que la parole de Dieu est vraiment très claire. Mais bon, je ne me laisse pas égarer maintenant par ce sujet qui me tente. Mais ce n'est pas aux circonstances à diriger nos vies. C'est bien et bel et bien à ce Dieu, nous avons ce matin entendu ces pensées importantes sur la notion de maître. C'est ce Dieu que nous adorons, que nous avons loué ce matin de tout notre cœur, de toute notre âme et notre esprit, qui est bien effectivement celui qui conduit, qui veut diriger nos vies, mais pas comme ça au petit bonheur la chance, au gré de telle ou telle petite prière que nous laissons échapper et qui certainement ne manqueront pas de témoigner de notre sincérité. Mais combien souvent aussi, je le dis d'ailleurs dans des conversations au niveau de la relation d'aide à des frères et sœurs bien intentionnés, en disant que la sincérité ne suffit pas. La bonne intention ne suffit pas. Il faut apprendre à exercer un certain discernement. À cet effet, j'aimerais prendre trois exemples bibliques pour non pas couvrir tout le sujet comme s'il n'y avait plus rien d'autre à dire, ce serait de la présomption, mais au moins déjà vous mettre peut-être sur la route de cette réflexion afin d'apprendre, parce que vous êtes, pour la plupart, je pars de ce principe, des disciples de Jésus, et comme vous connaissez, le mot disciple signifie étudiant. Hein, c'est-à-dire vous êtes là pour apprendre, donc autant en profiter et apprendre quelque chose. Je prendrai comme premier exemple, je prendrai d'ailleurs trois exemples qui sont très connus. Ça nous évitera de lire les textes parce qu'on n'a pas le temps. Et j'aimerais pas qu'un midi et demi et plus que moi qui soit là. Et puis tout le monde est déjà parti pour prendre l'apéritif. Alors je prendrai trois exemples très connus qui permettront de nous aiguillonner dans cette réflexion sur comment faire, comment réagir d'une manière un peu plus intelligente quand nous nous trouvons dans des impasses de la vie. Dans des situations où, effectivement, la question qui se pose, c'est que faire quand on ne peut rien faire. Premier exemple, vous pourrez lire, je donne quand même quelques textes, ça vous permettra de faire votre méditation de la semaine qui vient. Vous lirez le chapitre d'Exode, le chapitre 14 du livre de l'Exode. Chapitre 14 du livre de l'Exode, c'est un de ces chapitres qui donc nous conte l'histoire d'Israël près de la mer Rouge, vous connaissez tous. Donc la délivrance du peuple d'Israël après des siècles de captivité, connu d'ailleurs, un livre biblique en porte tout le nom, l'Exode, et qui d'ailleurs, vu de la perspective des Égyptiens, était plutôt vu comme une fuite en avant vers une impasse. Hein, ça, on l'oublie quelquefois. Il y avait déjà deux perceptions d'un même événement. Et nous savons que le tout n'était pas de partir, encore fallait-il arriver à destination. Et nous savons que relativement vite, après le départ, finalement arrivé, déjà, ce n'était pas évident, nous savons que Pharaon et son armée s'est mis à poursuivre Israël. Et quand Israël s'est rendu compte de ce qui se tramait, de ce qui se mettait en route, là, tous les chariots, tous les chevaux, ça devait faire du bruit, déjà de loin. Quelle a été leur réaction ? On ne peut plus humaine. Vous allez vous y retrouver. Le verset 10 du chapitre 14 du livre de l'Exode. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Donc là, on retrouve déjà tous les ingrédients de ce que j'avais dit tout à l'heure. L'angoisse qui s'empare de nous, et puis la prière, le réflexe qui est juste, vous avez bien fait de le souligner. Donc, mais il y avait quand même certaines choses, dimensions qui manquaient dans tout cela. Et peut-être la chose la plus importante qu'ils avaient oubliée, c'est que s'ils se trouvaient dans cette situation à ce moment-là, c'était pour une bonne et simple raison, c'est parce que, écoutez bien, c'est parce que Dieu les y avait placés. Dieu les y avait placés dans cette situation impossible. Et d'ailleurs, vous lisez le tout premier verset de ce chapitre 14, il contient une instruction, on ne peut plus précise. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon, c'est-à-dire en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Donc on ne peut plus préciser, pour ne pas se louper. L'Éternel avait parlé avec Moïse, Moïse avait transmis. Donc c'était clair. Et c'est parce que c'était si clair que Moïse a pu répondre au peuple, les versets 13 et 15 nous le rapportent, « Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Un verset d'ailleurs qu'on aime bien citer, parce que on part toujours de ce principe que quand on est dans des situations impossibles, c'est Dieu qui nous y a placés. Parce que ce premier cas de figure là que je vous présente, c'est le cas que nous on aimerait être le cas de toujours. C'est vrai ? Non mais soyons honnêtes, moi je le dis aussi pour moi-même, je me mets exactement au même rang que vous. Moi j'aimerais bien aussi que dans toutes mes situations, eh bien je puisse faire référence à l'Éternel a parlé à Raymond Pfister. Et puis aujourd'hui, ben, je l'ai même enregistré, les moyens techniques me le permettent, donc il n'y a pas de doute. Et donc, je vais pouvoir prier, l'Éternel combattra pour moi, et moi je vais garder le silence. Et c'est vrai qu'il faut justement faire la part des choses. Et c'est vrai que Dieu nous parle de bien des manières. Et quand il parle, c'est clair. Mais il y a des fois où il y a d'autres sources, et on va y arriver. Et d'ailleurs, dans les milieux pentecôtistes et charismatiques, il y a une chose qui m'a souvent dérangé, c'est cette facilité avec laquelle certains chrétiens disent à tout bout de champ, « Oh, l'Éternel m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », alors que moi, je savais très bien qu'il n'avait rien dit du tout. Et bon, je ne suis pas le genre à vouloir exagérer, mais quelquefois quand même, je me demande de poser la question si ça ne frôlait pas le blasphème. Parce que tout le temps vouloir mettre ça dans les chaussures de Dieu, excusez l'expression, je trouve que c'est quand même un petit peu cavalier, hein. Surtout que quand on peut bien sûr mettre ça dans les chaussures de Dieu, on a vite fait de se laver les mains soi-même, hein. Et dire au fond, maintenant c'est ton problème, c'est toi qui m'as placé là. C'est vrai que s'il nous place dans de telles situations, et justement nous avons des exemples, et cet exemple-là est bien présent pour nous l'indiquer, où nous pouvons nous référer à Dieu qui nous a demandé d'être fidèle et d'obéir à sa parole. Et dans ce cas-là, effectivement, le message pour vous ce matin, c'est ne paniquez pas, ne bougez pas, vous êtes dans le plan de Dieu. Dieu va agir. Et l'Éternel d'ailleurs dira à Moïse, pourquoi s'écrie ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Contre toute apparence, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Wow. Entrer au milieu de la mer à sec. On se dit, ben là, je suis dans le mauvais film. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose. Mais Moïse, il entendait bien Dieu lui parler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu sa main sur la mer et le peuple d'Israël Et le peuple entra bien au milieu de la mer à sec. Donc la leçon à retenir ici, c'est que là où Dieu nous place, même si c'est au milieu de l'épreuve, ne reculons pas, mais avançons avec confiance. C'est-à-dire, ne commençons pas à proclamer le statu quo. C'est ça, quelquefois, le danger. On est arrivé dans une impasse, on sait que c'est la direction de Dieu qui nous amène là, on a cette assurance et on fait bien de l'avoir, mais on pense que ça y est, c'est la fin des haricots, on va plus nulle part. Alors que la parole dit, mais continue, contre toute apparence, continue, avance avec confiance, et on verra la main puissante de Dieu à l'œuvre. Bon, mais maintenant, un petit renvoi en bas de page, ou un petit nota bene, si vous préférez. Si le peuple marche à sec, on oublie quelquefois très rapidement que tout près d'eux se tenaient les eaux qui formaient, nous dit le texte, comme une muraille. Vous savez, vous avez une bonne imagination là? Une muraille en eau, c'est peut-être pas très impressionnant, hein, au point de vue solidité. Hein. C'est pas la muraille de Chine. Hein. Donc, passer là à sec, mais d'avoir de part et d'autre une muraille faite d'eau, il y avait de quoi quand même avoir les jetons. Et se dire, est-ce qu'on avance ou on recule? Hein. Donc, il fallait quand même la foi pour agir sur la parole et avancer contre, justement, les apparences, parce que les circonstances n'étaient pas encore... Oh, il y a un beau petit champ de tulipes, là, hein, on se croirait Amsterdam, etc., bref. C'était pas le paysage accueillant, je veux dire, qui disait, on avait vraiment envie d'y aller, parce que c'était... on se disait, ça c'est une confirmation. Quelquefois, on attend de ces confirmations. Hein. C'est-à-dire, on attend que toutes les circonstances sont déjà... Eh bien, le paysage attrayant, attirant, qui laisse rêveur, songeur. Et on ne comprend pas quelquefois que quand Dieu nous dit d'avancer, eh bien, les circonstances n'ont peut-être pas encore changé comme nous, on pense qu'ils devraient être. On oublie trop vite quelquefois que la solution de Dieu, c'est déjà pas notre solution à nous. Et que c'est pas parce que maintenant on avance, faisant partie de cette solution, cette marche en avant, eh bien que c'est les circonstances, elles, sont aussi encore en changement, mais pas forcément comme nous pensons, il faut que tous les feux soient ouverts. Vous entendez quelquefois ce langage parmi les chrétiens? Ah, moi je bouge pas si tous les feux sont pas ouverts. Ben, il y en a qui bougent pas toute leur vie, hein. Et où ils vont? Ben, justement, nulle part. Et c'est pas la faute de Dieu. Mais c'est en fait justement cette manque d'intelligence spirituelle. Cette foi qui ne comprend pas comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, comment Dieu eh bien, est toujours à l'œuvre, même quand les circonstances de nos vies eh bien, sont des plus alarmantes. Dieu est là pour agir. Et alors, eh bien, si la question de la foi alors se transforme du « que faire quand on ne peut rien faire », la question devient peut-être « irons-nous ou n'irons-nous pas avec une telle solution de Dieu ?» Parce qu'on ne voit pas forcément le bout hein, de la muraille d'eau. Parce qu'on se dit « oui, moi je fais 100 mètres, d'accord, peut-être qu'elle va tenir, hein, mais au bout d'un kilomètre, c'est moins évident, hein, est-ce que je vais passer à l'autre bout et c'est où est-ce que c'est les chars ?» du pharaon qui m'ont rattrapé. Alors j'aurais vraiment l'air malin entre deux murailles d'eau et le pharaon et ses armées et son armée derrière. Mais voilà, ce n'est que le premier exemple. Cet exemple, oh que je sais, hein, soyez honnête, il y en a l'un ou l'autre qui va penser. Et j'aimerais bien qu'il arrête sa prédication là parce que ça c'est bien. Comme ça au moins je peux dire c'est Dieu qui me place dans les situations difficiles de ma vie. Et puis déjà maintenant je vais au moins apprendre à exercer la foi. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. On pourrait s'arrêter là, midi moins 10, on s'arrête pas souvent à cette heure-là pour en avoir un apéritif un peu plus long. C'est pas mal. Eh ben non, j'en ai peur, on n'est pas fini. Parce que déjà la vie n'est pas si simple. Elle est bien plus complexe. Et puisque la vie est beaucoup plus complexe, eh bien, les facteurs qui interviennent, les réflexions qu'il faut qu'on se fasse, eh bien, sont aussi d'une nature un peu plus complexe. Alors, je vais prendre un deuxième exemple, que vous connaissez bien aussi, Et donc, je ne vais pas vous lire le texte. C'est dans le chapitre 16 du livre des Actes. C'est l'épisode de Paul et Silas dans la prison de Philippe. Aussi bien connu, à bien des égards, Philippe, première ville d'Europe, faut-il le dire, à être évangélisé. Et ça, sans nul doute, c'était le plan de Dieu. C'est bien le plan de Dieu, c'était bien Dieu qui les avait placés dans cette ville pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Mais quand on va les charger de coups, mais quand on va les jeter en prison, on ne pouvait plus honnêtement dire que c'est Dieu qui les y avait placés. Sans doute Dieu l'avait permis, mais là n'est pas la question. S'ils se trouvaient dans une telle situation, chers frères et sœurs, c'est parce que le monde les y avait placés. Le monde que nous savons qu'il ne reçoit pas la lumière, parce que dans le monde il y a les ténèbres. Donc qu'il y a dans le monde dans lequel nous vivons cette hostilité vis-à-vis de l'évangile, il ne faudrait pas que ça nous étonne. Et c'est donc là la raison prédominante qui a fait que Paul et Silas se sont retrouvés dans une situation des plus inconfortables, pour le moins qu'on puisse dire, en tout cas une autre impasse que nous racontent les Écritures. Maintenant, il est intéressant de voir comment Paul et Silas vont gérer leur situation. Eux se poseront, certainement dans leurs propres mots, cette question, que faire quand on ne peut rien faire? Parce qu'en plus, ils ont dit, si vous relisez le chapitre 16 du livre des Actes, il est dit à un moment donné, et faites bien attention de bien les garder. De bien être sûr qu'ils vont nulle part. Hein, de bien être sûr que la prison, ils y sont et ils y restent. Parce qu'on n'a pas envie qu'ils continuent à faire des troubles faits et à annoncer cet évangile qui, en fait, ne cadre pas avec la notion de foi juive que nous avons. Alors, Paul et Silas auraient pu faire comme nous, on fait souvent. Ils auraient pu se plaindre en haut lieu. Ça aussi, c'est le type de prière quelquefois qu'on entend. Pas chez vous peut-être, mais moi, je me suis déjà attrapé, prier, et au fond, dire à Dieu pourquoi je trouve que quelque chose n'est pas juste. Hein? Ça vous arrive peut-être pas, mais moi ça m'arrive, même tout pasteur que je suis. De dire à Dieu, si je suis dans cette situation-là, c'est quand même pas à ça à quoi tu m'as appelé. Non? Dire, c'est pas possible. Hein? Il y a erreur quelque part là, dans la direction. Et voilà, réclamation maintenant est due. Et je peux m'imaginer que Paul et Silas auraient pu, et à haute voix, dire et prier, on nous a enlevé nos vêtements, on nous a battus de verges, ce n'est quand même pas juste, on ne méritait pas ça. On est des fidèles serviteurs de l'Éternel, on prêche la bonne parole comme tu nous demandes, et voilà la récompense. On pourrait, naturellement, on aurait pu s'imaginer un tel développement, un tel scénario, n'est-ce pas? Mais vous avez lu le texte, vous le relirez certainement. Ce n'est pas cela que les autres prisonniers ont entendu de la bouche de Paul et de Silas, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas ça le type de prière qu'ils ont donné à entendre. Ce qu'ils entendirent, par contre, je cite le verset 25, c'est que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Waouh! Mais ça alors? On pourrait se dire, mais quelle idée? En de telles circonstances, on se croirait au Bergenville, le dimanche matin. Là, c'est normal. Là, le monde va bien. On a laissé les problèmes chez soi. On va au culte, on se concentre sur Dieu. Les problèmes n'existent plus. On loue et puis personne ne nous bat. Hein. On ne vous a pas battu pour venir là où est le Seigneur ce matin-ci, non. Donc vous êtes venu libres, des hommes et des femmes libres ce matin, vous louez le Seigneur et puis vous, même si le chauffage, il est en route, mais bon, il arrive. Donc, les circonstances sont pas peut-être au top, top niveau, mais on n'en est pas loin, hein, quand même, hein. C'est un très beau bâtiment, hein, que vous avez. C'est une très belle salle de culte que vous avez. Eh bien, donc, je veux dire, et en plus, vous avez aussi une belle équipe de louanges qui vous conduit. Et donc, il y a toutes les bonnes raisons d'être là, plutôt qu'ailleurs, hein. Même si pour certains, la nuit était courte, mais quand même, on se rattrape, hein. Et on est content d'être là, en fin de parcours. Mais imaginez-vous maintenant, eh bien, la sono ne marche pas. Eh bien, les instruments ne sont pas accordés. Il y en a même, la batterie est cassée. Et puis, en plus, on arrive tout trempé. Il n'y a rien qui marche. On commence une demi-heure en retard. Donc, imaginez-vous qu'on aurait ce genre de truc. Alors, il y a de bonnes chances que les prières qu'ils montraient seraient du style de celles que Paul et Silas n'ont pas priées. Parce que c'est quand même assez fou comment on est dans notre monde occidental habitué à un confort d'église, j'appelle ça. Ou si le confort n'est pas confortable suffisamment, eh bien, il y a trois rues plus loin, notre église évangélique, du type plus ou moins pareil, qui ne demandera pas mieux qu'à m'accueillir les bras ouverts, parce que justement, eh bien, ça ne collait pas. Et alors, on va dresser ce qu'on appelle les pigeons voyageurs de l'Éternel. C'est parce que tout simplement, eh bien, on s'est trompé de sujet dans la vie chrétienne. Parce que déjà, une église locale parfaite, elle n'existe pas. Et si elle était, elle ne le serait plus quand on arrive. Et donc, il y a toujours quelque chose qui ne collera pas. Mais seulement, je veux dire, et ça c'est un petit peu aussi une question d'attitude, est-ce qu'on est disposé à être une partie de la réponse quand il y a problème, ou est-ce qu'on va être partie du problème? C'est des choix qu'il faut faire, mais il faut les faire consciemment. Mais ça aussi, c'est une grâce que Dieu veut nous faire, et il nous fait, c'est que nous puissions, là où nous sommes, être une partie de la solution. Et dans cette prison, eh bien, qui n'avait certainement rien qui aurait suggéré à Paul et à Silas, je ne peux pas m'imaginer qu'ils se tournent l'un vers l'autre et disaient, oh, c'est chouette ici quand même, hein. Ils ont mis, c'est pas mal, quoi, c'est pas le 3 étoiles, c'est même pas le 2 étoiles. Je sais pas si on nous donnerait d'étoiles, mais enfin bon, ils ont mis quand même un gardien rien que pour nous, hein, quand même, hein, pour être sûr qu'on va nulle part. Ils sont sympas quand même, hein, ils s'occupent de nous, on est bien soignés. On pourrait peut-être rester, non, un peu plus longtemps. Non. Mais au fond, ce qui habitait leur cœur, ce qui les animait, c'était pas les circonstances, c'était pas si ça collait, c'était bon. Allez, ça va être un bon culte. Là, je sens, hein, je le sens, ça va être un bon culte. C'est bien parti. Et puis à la fin du culte, non, je l'ai pas vraiment senti. Non, là, il manquait quelque chose. Le pasteur, là, il avait un drôle d'accent qui collait pas vraiment. Il était pas anglais, il était pas français, il était pas allemand. Qu'est-ce qu'il est? Il y a toujours quelque chose qui dérange, hein. Sur quoi vous vous arrêtez ce matin? Qu'est-ce qui va vraiment, eh bien, remplir votre cœur, votre esprit? Qu'est-ce qui est important pour vous? En tout cas, pour ce qui est de la vie que nous menons dans ce bas monde, il faut quand même se savoir que le monde peut essayer de nous faire violence, ou de nous enfermer, ou de nous mettre les fers aux pieds. Et effectivement, dans ce cas-là, il semblerait bien qu'on va nulle part. Mais ce que le monde ne pourra jamais nous empêcher de faire, c'est d'élever notre voix pour célébrer le Seigneur. Hein, si vraiment il y a la louange dans ton cœur, parce que ce n'est pas une question d'avoir le bon cantique, hein. Ceux qui réclament, ça fait maintenant déjà 3 mois qu'on ne chante plus mon cœur préféré. Ce genre de truc semble absurde, hein, mais ça existe. Il y a tellement de choses qui en fait, faussent tout à fait le chant que Dieu veut mettre dans nos cœurs. Et rappelons-nous cette parole de Jésus, sur laquelle on ne prêche peut-être pas aussi souvent. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vécu le monde. » J'ai vaincu le monde, pardon. Et il a vécu le monde et il l'a vaincu. C'est parce qu'il l'a vécu qu'il l'a vaincu. Il y avait peut-être là une notion. Quelquefois, il y a nos lapsus qui en disent long, hein. Qu'en est-il de nous? Est-ce que le monde nous intimide au point de nous taire? Au pire encore, de changer nos louanges en lamentation. Oh Seigneur! Puis en plus, en prière, ça sonne bien, hein. Oh Seigneur, tu vois combien tout est misérable. Les chrétiens sont misérables, les non-chrétiens sont misérables, tout le monde est misérable, et puis maintenant, moi aussi, je me sens misérable. Puis tout ça en prière, ça colle bien, hein? Ça fait tellement spirituel. Mais, j'ai été dans des réunions de prière, je suis sûr que vous ne les avez pas ici, mais j'ai été dans des réunions de prière où c'est ça. Hein? Oh Seigneur, on se lamente, surtout et surtout. Il n'y a pas le chant de louange qui naît. Parce que c'est les circonstances qui nous aveuglent, qui nous éblouissent, qui nous accaparent, et qui amènent tellement de distorsions dans nos perceptions de la réalité de Dieu. C'est quand même, c'est quand on justement, comme Paul et Silas, c'est, je pourrais vous raconter des témoignages personnels, quand on apprend au travers des épreuves finalement à vraiment en venir à l'essentiel. Et on apprend aussi à faire la part des choses entre ce qui compte vraiment pas, et ce qui ne reste pas, et ce qui est appelé à demeurer. Oui, on aimerait bien toujours que ce soit Dieu qui nous place dans les situations, dans les épreuves. Comme ça, on peut dire, maintenant, moi, je fonce, je viens en avant, puis peu importe, hein, j'exerce la foi, c'est bien. Mais quelquefois, on se rend compte aussi, ben, c'est pas du tout Dieu qui nous a placés, mais c'est le monde. Et là, effectivement, il est aussi important de voir que même dans ce cas-là, quand on a des épreuves, justement parce que, eh bien, en tant que chrétien, on a dû faire face à de l'opposition, hein, à de la contradiction. Eh bien, pourtant, là, on tient le cap et la louange qui habite notre cœur ne change pas. On n'est pas aigri contre ce monde. Je dis, on aime. Ça, c'est important tout particulièrement parce qu'on est dans un monde de violence où on nous appelle à la haine tout le temps, que ce soit la haine contre les musulmans, la haine contre ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, qui ont d'autres cultures. On nous invite tout le temps à prendre nos distances par rapport à l'autre, alors que l'Évangile, ça nous appelle toujours à embrasser. Et je vous le dis tout particulièrement, dans ce pays de France, qui a un nombre croissant de personnes qu'on appelle les étrangers, eh bien, je trouve que l'Église a souvent manqué d'être le modèle qui reçoit et qui accueille, et qui exerce l'hospitalité qui est propre à l'Évangile. Et c'est tout particulièrement vrai, puisque c'est tout le temps à l'actualité de ce monde musulman qui nous est tellement étrange. Eh bien, il est important, frères et sœurs, que vous aimiez les musulmans et que vous ayez ce sentiment d'amour profond dans votre cœur. Et vous ne pourrez pas les aimer si vous n'en connaissez pas. Eh oui. Donc, faites-vous des amis musulmans. Et pas simplement avec des arrière-pensées, mais par amour et pour les aimer afin d'avoir une occasion de les aimer. Moi, j'ai un ami musulman de longue date à Hambourg. On ne se voit pas souvent, mais on s'aime bien. On se respecte. Et quand on se voit, c'est lui toujours qui commence à me parler de Jésus et de ce que je pense. Ce n'est pas moi qui l'aborde. Je n'ai jamais essayé de le convertir parce que je sais que ce n'est pas moi qui convertis qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit. Donc, mais je bénéficie beaucoup de cette relation d'amitié avec cet homme qui est un musulman pratiquant. Et c'est tellement important. Et quelquefois, bon. C'est simplement le fait de bénir les autres qui sont différents. Quand je suis arrivé de Birmingham il y a 10 jours environ, j'étais assis à côté d'une musulmane pratiquante française qui habite en Angleterre et on ne s'est presque pas parlé que jusqu'à la fin. Et quand je suis sorti de l'avion, j'avais parlé un tout petit peu avec elle et j'ai simplement dit je, soyez bénis. Je lui avais expliqué un petit peu qui j'étais en disant que je suis un petit peu comme un imam chrétien. Donc, comme ça, elle comprenait un petit peu que j'étais une personne qui représentait la foi chrétienne. Et puis, à la fin, quand je lui ai dit, voyez, soyez bénis, parce que c'est important que nous bénissons les gens. Et aucun respect de la personne, toutes les personnes que nous les bénissons, que nous leur souhaitons du bien. Et ça veut dire, nous avons dans notre pensée, nous leur souhaitons que le Dieu vivant se révèle dans leur vie. Et nous savons que de quelle manière, quelquefois, incroyable, Dieu s'est révélé à des personnes musulmanes. Et c'est marrant comment elle a répondu. Elle m'a dit en arabe amen en me disant c'est pareil, vous vous dites pareil sauf un peu différemment quoi. Hein. Donc elle avait compris que je lui voulais du bien. Et c'est important parce que pendant toute la petite conversation qu'elle m'avait eue, la chose qui sortait tout le temps, c'est le fait de se sentir rejetée par les autres, du fait de qui elle était, une musulmane pratiquante. Et donc le Saint-Esprit m'avait à cœur que le seul message que je devais faire passer à ce moment-là, c'était que moi, qui me disais chrétien et qu'il était, eh bien moi, je l'acceptais comme elle était. Et je voulais la bénir. Je voulais avoir un reflet positif dans sa vie pendant les quelques minutes que j'avais C'était pas le moment d'essayer de déballer les quatre lois spirituelles pour lui en mettre plein la vue. Non, mais c'est ça. Mais c'était, il s'agissait simplement d'être une présence, un témoin de Dieu dans sa vie pendant ces quelques moments. Donc, il y a donc deux cas de figure qu'on a vus, mais il y en a un troisième qu'il faut qu'on voit encore, parce que c'est celui-là d'ailleurs dans lequel on se retrouve peut-être le plus souvent. Parce qu'on aime bien quand on peut dire que c'est la faute aux autres, hein, même que ce soit la faute à Dieu ou la faute au monde. Mais il y a un troisième cas de figure, d'ailleurs c'est intéressant, c'est une histoire que Glenn Burris a mentionné souvent durant la pastorale, c'est l'histoire de Jonas. Alors le livre de Jonas n'est pas bien long, il n'y a pas beaucoup de chapitres, donc vous pourrez le relire tranquillement. Mais son histoire est tout particulièrement intéressante aussi par rapport à ce sujet. Parce que Jonas, qui d'ailleurs, ceci dit, c'était aujourd'hui on dirait que c'était le pasteur Jonas, hein, c'est le prophète de l'Éternel quand même, et c'est à ce titre-là qu'il nous est présenté. Il était en route pour Tarsis, et voilà qu'il se retrouve quelque part en Méditerranée, là on n'a pas vraiment envie de se retrouver, c'est-à-dire dans le ventre d'un grand poisson. C'est ainsi qu'il est décrit, sans plus de détails. Une situation, hein, vous l'avouerez bien, qui ne manquait pas de sortir de l'ordinaire. Là même avec toute l'imagination qu'on peut avoir, un peu du mal à avoir. On peut se rappeler peut-être les dessins qu'on a vus quand on a fait l'école dimanche, mais à part ça. En tout cas, ça reste quand même toujours un petit peu une histoire emblématique, puisque elle nous rappelle un petit peu toutes les mésaventures qu'on a pu avoir aussi, où on se dit comment on a fait pour se retrouver dans une telle situation. Mais cette fois-ci, il faut bien se l'avouer, ce n'était ni la faute de Dieu, ni la faute du monde. Ce n'était pas Dieu qui l'avait placé dans ce poisson, bien qu'il était serviteur de l'Éternel. Hein. Encore une fois, tenter de dire, parce que je sers Dieu, forcément, si je suis dans la situation, c'est parce que Dieu l'a voulu. Eh bien non, en fait, Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, ce qui était complètement dans la direction opposée. Donc là, c'est on ne peut plus clair, on ne pouvait pas mettre ça au compte de Dieu. Mais on ne pouvait pas non plus dire que c'était le monde qui était responsable de ces déboires, parce que bien que les mariniers qui faisaient route avec lui ont posé la question que vous connaissez au verset 8, chapitre 1er, « Dis-nous qui nous attire ce malheur ?» Bonne question, hein. Si Jonas fut englouti par ce poisson, c'est tout simplement parce qu'il se plaça lui-même dans cette situation. Hein. C'est lui-même qui finalement récolte les fruits de son sens de l'initiative. Et d'ailleurs, notez bien, frères et sœurs, que les embrouilles de notre brave Jonas n'étaient pas dues à un manque de connaissance de la volonté de Dieu. Parce que souvent, ça aussi, je l'entends. Ah, si j'avais su quelle était la volonté de Dieu pour ma vie, oh, si je savais quel était le plan de Dieu pour ma vie, ben là, je veux dire, je vous réfère au prochain séminaire. Hein. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais non, Jonas savait très bien. Donc, il n'a pas péché par ignorance. Mais il avait fait ses calculs à lui. Tout serviteur de l'Éternel qu'il était. Et ses calculs, eh bien, ne collaient pas avec les calculs que Dieu avait fait pour sa vie et pour son ministère. Donc, sa situation, nous le savons, était le fruit tout simplement de sa rébellion à l'égard de Dieu. S'il se trouvait dans une situation si désespérée, c'est parce qu'il avait pris à la légère la parole de Dieu. Il avait préféré en faire à sa tête. Et moi, je pense que c'est certainement le problème numéro un des chrétiens. C'est certainement mon problème numéro un aussi dans ma vie chrétienne. C'est pour ça que je ne me mets pas à part. Le problème, ce n'est pas que la volonté de Dieu ne soit pas assez claire. C'est le problème véritable, c'est parce que c'est ce que nous connaissons que nous n'en prenons pas acte. C'est parce que nous savons tellement de choses sur Dieu. Mais souvent, là où nous péchons, c'est qu'il n'y a pas le suivi. On connaît tous, aime ton prochain comme toi-même. On connaît tous. Alors ne dites pas que vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Mais il y en a qui ne peuvent pas se voir le matin quand ils se lèvent et quand ils se regardent dans le miroir. Donc c'est déjà mal parti. Ben non, c'est vrai. Il y en a déjà qui se sentent mal là, quand ils se voient le matin. Quand ils se rasent déjà, ils se disent c'est moi. Hein? Non, moi, ça fait deux fois que je suis grand-père. Et le matin, quand je me rase, je me regarde dans le miroir, je dis, ça ressemble à quoi, un grand-père, deux fois? J'ai du mal à accepter le fait que je suis un grand-père, parce que je me dis, j'ai pas l'âge d'un grand-père quand même, non? En deux fois en plus maintenant. Hein. Alors, c'est-à-dire que comme j'ai encore des enfants plus jeunes, forcément, ça me garde jeune, mais bon. Mais il y en a qui ont des problèmes bien plus sérieux que ça, quand il s'agit de s'accepter tels qu'ils sont. Et souvent, là, le bât blesse. Hein. Et quand on n'arrive pas déjà à s'aimer soi-même, comment veut-on aimer les autres? Souvent dans la vie du couple, c'est ça le problème. Hein. Un mari qui n'aime pas sa femme ou sa femme qui n'arrive pas à aimer son mari, c'est parce que déjà, ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Donc ensuite, eh bien, ça amène tout le temps des frictions, des heurts et des malentendus en tout genre. Mais cela, encore une fois, il faut se l'avouer, c'est encore un tout autre sujet. Donc, là encore une fois, souvent, le problème, c'est que c'est en fait, nous prenons les choses en main. Non pas qu'il soit, encore une fois, j'aimerais pas que vous me compreniez mal, parce que le problème, ce n'est pas que nous décidons à faire certaines choses. Parce que justement, encore une autre chose que je veux dire, la vie chrétienne, ça ne fonctionne pas à coup de révélation. C'est le matin, on mettait le réveil et disait, allez, prenez le téléphone de l'Éternel, Seigneur, maintenant tu parles, dis-moi ce que je dois faire. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, la vie chrétienne. Donc, c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est bien nous qui devons choisir et assumer nos responsabilités et assumer aussi nos fautes. Nous pouvons apprendre au travers des fautes. Donc, finalement, avant de vouloir être le premier à lancer la pierre à Jonas, il faudrait là déjà avoir un peu plus de compassion et de grâce en disant que ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. D'ailleurs, Dieu était plein de grâce pour Jonas. Et le vrai miracle, c'est que Jonas ait encore été vivant lorsqu'il fut rejeté sur la terre ferme par le grand poisson. Donc, déjà, rien que l'expérience, comment Dieu l'a gardé au travers de toutes ces circonstances vraiment hallucinantes, eh bien, c'est vraiment un témoignage de la grâce de Dieu. Donc, je veux dire, le troisième point de mon message, c'est pas de vous dire, maintenant, on en arrive vraiment au vrai du vrai, c'est-à-dire quand vous êtes des coupables. Hein. Et là, il n'y a plus que le marteau qui pour donner un coup de marteau, c'est la seule chose à faire. Non. Il y a de l'espoir pour celui qui reconnaît son erreur. Et ça veut aussi dire avoir le courage de faire des erreurs. Parce que ça, on ne l'entend pas souvent. C'est toujours de lancer le boulet en disant, vous n'avez pas droit à l'erreur. Il n'y a pas la grâce là. Hein. Et surtout, c'est pas très humain et c'est pas très réaliste non plus parce que des erreurs, j'en fais pratiquement tous les jours. Ça fait partie de mon pain quotidien. J'ai ma ration d'erreurs. Ce qui est terrible, c'est si je fais semblant que j'en fais pas. Hein? Souvent, je m'en mords les doigts et déjà trop tard, c'est déjà fait, c'est déjà parti. Je l'ai pensé, je l'ai dit, je l'ai fait. Alors que j'aurais pas dû le dire, j'aurais pas dû le penser, j'aurais pas dû le faire. Mais chacun a le droit de commettre des erreurs, mais aussi le devoir de les corriger. Ça fait partie de l'apprentissage de la vie, ça fait partie de l'apprentissage de la vie de disciple. C'est que maintenant que je vois l'erreur pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une erreur, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais une meule à mon pied et je coule glou 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 jusqu'à je ne suis plus, hein? Ou alors j'en vois une occasion de grandir à maturité. Et ça, c'est le bon sens quelque part aussi. C'est pour ça qu'on peut citer la Bible, bien sûr, pour faire passer ce point-là, mais on peut aussi citer des sources non chrétiennes. Par exemple, vous connaissez tous Cicéron, l'historien romain qui disait en son temps « L'erreur est humaine, seuls les sots persistent dans leurs erreurs. » Donc vous voyez, c'est simplement déjà la sagesse la plus élémentaire, mon cher Watson. Hein? Donc il faut simplement, et bien c'est être chrétien, ça veut pas dire justement aller d'un non-sens à l'autre. Hein? Quelquefois, c'est simplement des choses tout à fait simples qu'il faut acquérir. D'ailleurs, ne pas être conscient de vos fautes serait la plus grande faute que vous pourriez commettre. Donc, c'est vrai que quelquefois, il y a aussi une leçon d'humilité parce que ça nous rabaisse un peu le caquet. Quand je dois avouer, non, c'était, j'ai pensé bien faire, mais non, ça n'était pas ça du tout. Je me suis bien planté. Ça, c'est sûr que ça nous en donne un coup. Notre orgueil en prend un coup. C'est pour ça qu'on peut prier que Dieu nous fasse grâce, effectivement, afin que nous fassions monter vers Dieu. Une véritable prière de repentance, une véritable prière de renoncement à nous-mêmes et à nos ambitions égoïstes, que nous puissions alors nous exclamer comme Jonas, au chapitre 2, verset 10, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai fait, le salut vient de l'Éternel. Donc, qu'un poisson avale un homme, c'est possible, tout comme se mettre dans une situation impossible. Mais le vrai miracle pour nous, c'est que Dieu sait encore quoi faire quand nous ne pouvons vraiment plus rien faire. Et c'est alors qu'il veut nous apprendre à faire la part des choses, déjà, à examiner les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Si nous sommes là, où nous sommes aujourd'hui, dans telle situation, est-ce que c'est Dieu qui nous a donné un ordre précis afin de le faire? Dans ce cas-là, eh bien, nous pouvons avancer tranquillement, sans souci, continuer sur le chemin, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de déviation vers la droite ou la gauche. Non, on continue, puisque c'est l'ordre formel de Dieu. Mais comme dit, si c'est le cas idéal, le cas rêvé, c'est pas souvent, eh bien, le cas de figure tel qu'il est, parce que Dieu ne nous place pas dans toutes les difficultés où nous sommes. Quelquefois, c'est le monde qui nous a passé parce que nous étions fidèles au témoignage de l'Évangile, nous étions fidèles à son service et le monde nous place. Mais je crains que trop souvent, le cas de figure qui va se présenter, c'est que nous-mêmes nous nous sommes placés. Dans ce cas-là, on ne peut pas en donner la responsabilité ni à Dieu ni aux autres, ce qui, bien sûr, quelquefois serait un soulagement. Hein, si je peux passer la responsabilité à d'autres, c'est toujours, je me sens mieux, hein, mais quand c'est moi. Mais là, c'est là qu'il faut être honnête avec Dieu, faire la part des choses, quelle que soit la situation, et avoir ensuite, justement, une attitude réceptrice vis-à-vis de l'action de Dieu dans notre vie. Donc, rappelez-vous, en guise de conclusion, je vois que le temps passe et ne revient plus, comme disait mon prof de français en son temps. C'est la seule chose que je me rappelle, d'ailleurs. Rappelez-vous que pour Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Il y a seulement des hommes et des femmes qui désespèrent de leur situation. Ce qui compte, ce n'est donc pas tellement la situation en soi dans laquelle nous sommes, mais bel et bien notre attitude, notre réaction dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comment nous gérons les difficultés? Est-ce que c'est le coup de déprime assuré dans la durée? Ça y est, maintenant au moins je peux justifier ma dépression. Là encore une fois, c'est pas pour, je ne veux pas maintenant me moquer des gens qui souffrent de la dépression, mais je veux dire, la dépression, là aussi, je pense, peut normalement être une partie, un épisode de notre vie. Mais ça ne peut pas être le but, la fin en soi. La dépression, encore une fois, c'est quelquefois un passage dans nos vies. Et je crois que tous, nous avons, d'une manière ou d'une autre, souffert d'attitude de dépression, je veux dire. Donc là, je ne suis pas du tout de la rencontre, je vais être sûr que vous ne méprenez pas sur ce que je dis. Je ne fais pas d'accusation maladroite ou ignorante sur les personnes souffrant de dépression. Mais je veux simplement dire que si vous souffrez de dépression, ne le justifiez pas. Et ne le voyez pas comme étant une fin, mais comme un passage. Peut-être que ça a été un passage obligé, pour mille et une raisons, mais il y a une suite à donner. Et si notre attitude est appropriée, c'est là finalement, hein, si notre cœur est au bon endroit, nous verrons qu'au moment où notre situation nous semble sans issue, eh bien, que s'ouvrira tout à coup un chemin que nous n'espérions pas. Mais Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu nous aime, et Dieu nous aime quand nous sommes adroits dans ce que nous faisons, et il nous aime tout autant quand nous sommes maladroits. Adroits ou maladroits, nous sommes tantôt l'un, nous sommes tantôt l'autre. Mais Dieu est toujours le même, il ne change pas. Voilà donc ce qu'il faut faire quand on ne peut rien faire. Espère en l'Éternel, et il te délivrera. Et alors que tu espères, ne sois pas passif, mais plutôt proactif en faisant preuve de discernement. Car ça aussi, c'est le fruit de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous conduise. Amen.